Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
Mmh, c'est bon.
Où est-on ici?
À Saint-Denis. Banlieue rouge, nord de Paris, pleine des vertus, en 2022, mais plus d'un siècle de tradition maraîchère. Donc, si on ferme les yeux et qu'on se projette un peu un siècle plus tôt, 350 familles de maraîchers qui nourrissaient le ventre des Parisiens, les halles de Paris.
365 histoires! Choisis-en une!
Je vais vous raconter une anecdote. Ma grand-mère fait une compote de Noël. C'est une compote de fruits rouges qu'elle fait tous les ans. Et c'est drôle parce que c'est vraiment traditionnel. On n'attend pas ça spécialement pour le goût. C'est plus pour la coutume. Mais si la compote de Noël n'arrive pas, franchement, c'est loupé.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, on vous raconte le destin culinaire et alimentaire d'une ville et d'un département qu'on n'associe pas immédiatement à l'idée que l'on se fait de la cuisine et de la gastronomie, que certains médias ou élus ont même étiqueté « territoire oublié de la République ». Bienvenue à Saint-Denis, département du 93. Au-delà des clichés de certaines réalités difficiles, on va voir que cette ville, au nord de Paris, est aussi un territoire d'une incroyable profusion culinaire, un terroir riche d'une longue tradition maraîchère, mais aussi le terreau de projets stimulants et nourrissants. Et ça, c'est en partie grâce à un homme multicasquette qui adore soulever des montagnes à Saint-Denis, la ville de son enfance, mais aussi ailleurs, c'est Olivier Darnay. Bonjour.
Bonjour.
Il est compliqué de présenter un garçon aussi occupé et pluridisciplinaire que vous. Alors, vous êtes à la fois artiste plasticien, apiculteur, créateur de lieux et d'événements, vous êtes enraciné en Seine-Saint-Denis grâce à Zone Sensible. Vous allez bien sûr nous raconter l'aventure de cet hectare de maraîchage en plein milieu urbain qui est devenu un lieu de création et de mixité agricole, culturelle, artistique. Vous êtes avec nous aussi pour le livre « Récits, recettes » qui a consisté à collecter auprès des habitants de Saint-Denis des témoignages, des parcours de vie et des recettes. C'est un livre très attachant, un livre rayonnant, auto-édité par Koal, Partie Poétique et Ladis. Nous sommes également très heureux d'accueillir sur ce plateau Ranois Stéphan, bonjour.
Bonjour.
En parlant de récits recettes, vous avez joué un rôle central dans ce recueil de recettes. C'est vous qui avez sélectionné, rédigé, proportionné, commenté toutes les recettes collectées pour les rendre en fait réalisables à la maison. Vous allez d'ailleurs nous en faire goûter quelques-unes, un petit avant-goût Ranois.
Là, je vais vous faire goûter les feuilles de vigne farcies.
Yes.
Donc, c'est une recette. Je vais même vous le démouler.
Et oui, parce qu'il paraît que ça se démoule, ces petits rouleaux de feuilles farcies, de feuilles de vigne.
Et c'est un moment toujours très angoissant pour la cuisinière.
Vous faites carrément là en direct. Allons-y. Bon, et ben, on vous attend avec plaisir. Vous avez retourné cette petite cocotte.
Exactement. Et
on
ça
y est presque.
Pas.
Ah, si, arriver. si, voilà. On y est. Oh là là,
ah,
oh,
c'est pas très très bien déroulé.
Les rouleaux de feuilles, voilà. C'est bien, j'adore ça. C'est quand même très très joli. Et puis, vous êtes là également parce que vous avez fondé en 2018 les Délices de l'Ogresse, une conserverie artisanale à La Courneuve, juste à côté de Saint-Denis. On a eu plusieurs fois l'occasion de dire tout le bien que l'on pense de vos pâtes à tartiner, tartinades, ketchup et autres sauces barbecue. C'est tout en bio, c'est sans conservateur ni arôme. Vous allez nous faire goûter quelques-unes de vos nouveautés aussi, on est d'accord?
Oui. Je vous ai prévu de vous faire goûter des nouveautés qui vont sortir en juin. Donc c'est de l'avant-première, vraiment, c'est du prototype.
Dont
c'est
un vinaigre champêtre, on n'en dit pas plus.
Okay.
On joue un peu le suspense, mais en tout cas, on peut dire raisonnablement que c'est délicieux. Dans les fauteuils des chroniqueuses aujourd'hui, notre reportrice Zazie Tavitsian et notre chef cuisinière Manon Fleury. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Zazie.
Moi, je suis allée à Saint-Denis cuisiner sensible avec Coco.
Vous avez cuisiné sensible. Oui, Coco, c'est l'un des personnages, justement, du livre Récits Recettes. Et Manon?
Alors, j'en connais pas encore un rayon, mais on va essayer de cuisiner ensemble le rayon de miel aujourd'hui.
Et oui, parce qu'on a aussi un apiculteur, c'est Olivier Darnay, notre invité sur notre plateau. Pour interagir avec nous en direct de Seine-Saint-Denis ou d'ailleurs, un mail à onvadégustat@radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour être trouver tous les contenus de l'émission, recettes, podcasts, bonnes adresses. Rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Une alimentation durable est liée à l'attachement des riverains au territoire alimentaire. Ce postulat en tête, les membres de l'équipe partent à la rencontre des habitants de Saint-Denis afin de récolter leurs recettes, leurs gestes et leurs usages alimentaires. Ce sont les premières phrases d'introduction du livre « Récits, recettes » que j'ai à mes côtés, auxquelles vous avez tous les deux, Olivier et Ranois, contribué, et qui résume le sens de votre démarche, une collecte, une enquête à l'échelle de Saint-Denis auprès des Dionysiens et Dionysiennes, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Saint-Denis.
C'est comme ça qu'on les appelle, ouais.
Et vous avez en fait exploré, alors ce que vous appelez, et c'est une expression que j'aimerais que vous nous expliquiez, cher Olivier, l'extraordinaire biodiversité culinaire de cette commune au nord de Paris.
Lorsqu'on habite en Seine-Saint-Denis, on habite au milieu d'un territoire de diversité, parce que rien que Saint-Denis, c'est 153 nationalités différentes. Donc c'est déjà un pluriel. Et ce pluriel-là, en fait, c'est une chance quand certains considèrent que c'est une difficulté de réussir à vivre ensemble. Là, pour le coup, la Seine-Saint-Denis, c'est une démonstration de l'invention, en fait, de la possibilité de faire humanité ensemble. Et donc, cette ferme, zone sensible, et puis tous les projets qu'on développe aujourd'hui, c'est une sorte, finalement, d'éloge du pluriel. Et je m'en rends compte, finalement, au fur et à mesure que les projets s'enchaînent, chronologiquement, d'étape en étape, que c'est toujours une histoire de la diversité qu'on écrit.
Vous, ça fait déjà quelques temps que vous vous êtes enraciné, justement, à Saint-Denis. C'est d'ailleurs la ville de votre enfance.
Oui, oui, je suis né en Seine-Saint-Denis, et j'ai fait tout un cursus entre Livry-Gargan, Gagny, Saint-Denis depuis 30 ans maintenant. Et effectivement, c'est à la fois une terre natale où mes montagnes sont les Framboisins à Saint-Denis, les grands ensembles, etc. Et en même temps, ça a été un territoire magnifique où en fait, j'ai développé une relation incroyable avec un animal sauvage de 80 millions d'années qui s'appelle l'abeille et qui a complètement révolutionné ma façon de vivre.
Oui, parce que c'est finalement l'abeille qui vous a ramené, entre guillemets, à votre territoire natal.
En fait, c'est une sorte de bâton de transhumance, quoi. C'est-à-dire que c'est un point de vue objectif d'abeille qui m'a amené à d'abord être artiste, étrangement, avant d'être apiculteur. Et qui fait qu'à un moment, je suis dans une sorte d'hybridation. Tout à l'heure, vous parliez d'une sorte de cumul des mandats, hein. Je suis plasticien. Certains me considèrent plus comme un apiculteur. On reprend une ferme. Ça nous empêche pas d'écrire un livre. Et puis là, aujourd'hui, on a une sorte de prétention aussi à développer un projet dans le sud de la France relié à la Seine-Saint-Denis.
Ouais. À ça, vous nous en parlerez parce que vous êtes en train également de vous enraciner dans le sud de la France. Du côté des Bouches-du-Rhône, en Arles ou à Arles, faut-il dire
à Arles, c'est plus fréquentable de dire à Arles.
À Arles, excusez-moi.
Désolé, c'est rien, ça va bien.
Racontez-nous l'articulation en deux mots de zone sensible, qui est votre projet à la fois agricole et culturel, et ce livre Récits recettes qui peut en être en fait le prolongement.
Bien sûr. C'est une première collaboration avec la ville de Saint-Denis, puisque finalement, ce livre-là, c'est Récits recettes, c'est un grand bouche à bouche en fait. Hein. C'est un bouche à bouche entre des raconteurs d'histoires et des mangeurs. Et ce livre, il s'écrit en fait parce que tout à l'heure on évoquait ça, le 19e siècle, pleine des vertus, qui nourrissait le ventre des Parisiens, voilà, et puis finalement la pression foncière a fait que ces fermes ont disparu progressivement. Et un acte politique fort finalement de la ville à l'époque en 83 a été d'acheter les terres pour les protéger de cette pression foncière. Donc en 83, la ville de Saint-Denis achète plusieurs hectares.
Il restait donc de vraies parcelles de maraîchage.
Absolument, et c'est resté patrimoine finalement municipal, et ça a permis finalement de sauver cette sorte d'oasis aujourd'hui, qui est devenue zone sensible et la ferme urbaine de Saint-Denis, comme finalement la dernière ferme du 19e siècle, encore en activité aux portes de Paris. C'est de ça dont on parle. Quand on arrive à Saint-Denis, autour de nous, ce sont des immeubles, c'est une ville de 120 000 habitants, on est à 500 mètres du métro, et c'est une sorte d'incompréhension pour les yeux, mais aussi politique, puisque finalement, ce paradoxe-là fait de cet endroit-là une page ouverte pour écrire aujourd'hui 25 ans, parce qu'on a signé un bail de 25 ans avec la ville de Saint-Denis pour l'occupation de zones sensibles.
Ouais. Un hectare, vous cultivez, avec l'aide de votre chef maraîcher, oui, et beaucoup de bénévoles aussi. Hein, on va le découvrir notamment avec Zazie Tavitian qui est allé faire un tour avec son micro. Ouais. Citons Franck Pontier, hein,
bien sûr, chef maraîcher. Magnifique équipe, sans qui ça peut pas se faire, parce que Franck Pontier, Jean-Philippe Lucas, Clémence et Venance, enfin toute une équipe, Valentin aujourd'hui qu'on vient aussi de recruter, qui, et puis aussi une équipe de bénévoles. Alors ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé, en fait un désir de mettre les mains à la terre. Donc on a déclenché quelque chose avec une inquiétude, hein, parce que comment un collectif d'artistes qui s'appelle le Parti Poétique, donc déjà c'est assez compliqué d'expliquer qu'on est aussi un parti, mais allez comprendre, fait qu'à un moment on lève la main pour reprendre une ferme, ce qui est quand même une gageure incroyable, hein. C'est un métier incroyable, celui de maraîcher. On ne cultive pas une seule espèce végétale. On en cultive, nous, aujourd'hui, 250 à zone sensible. On fait le pari d'une reconversion, en plus, d'une exploitation qui était en monoculture de salade. René Kersanté, l'ancien exploitant, faisait 1,5 million de salades chaque année. Bon, la monoculture, qu'elle soit intellectuelle ou agricole, je suis pas sûr que ce soit le modèle qui nous intéresse. Donc, on part en permaculture, on part en hospitalité, on part en biodiversité. Et c'est ce que j'appelle, oui, aujourd'hui, une sorte de biodiversité culinaire, en même temps qu'une biodiversité culturelle qu'on développe sur ce territoire.
Parce que j'ai bien compris qu'il y a d'abord la biodiversité maraîchère ou légumière, hein, que vous cultivez au sein de votre hectare, de zones sensibles, 250 variétés potagères, et de cela découle également, ou c'est plutôt le reflet, ou en tout cas avec un principe de vase communicant, Récit recette, cette aventure découle évidemment de zones sensibles. C'est là qu'intervient aussi Ranois Stéphane. Vous êtes entré dans l'aventure de ce livre. Alors, il n'a pas forcément le format classique d'un livre de cuisine. Il aurait plutôt le format d'un roman ou d'un essai. On y trouve à la fois des récits, des témoignages d'habitants de Saint-Denis qui ont vraiment été collectés d'ailleurs avec l'aide de Ladis et Kaol,
Non, ce sont des chercheurs et un groupe qui s'intéresse à l'art contemporain et au lien entre l'art et l'environnement, donc ça c'est Kaol. Et le Ladis, c'est on va dire un équipage de géographes et d'anthropologues qui nous ont aidés dans le sérieux de la manœuvre, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de reprendre cette ferme en la conjuguant au pluriel tout en étant singulière, parce qu'elle est très singulière, ça a été du coup l'idée de regarder qu'est-ce que l'on avait à y faire pousser. Et donc finalement ce qui nous intéresse c'est de faire une ferme des cultures du monde. Et donc cette ferme, comment est-elle à un moment en possibilité d'être à l'échelle de la biodiversité du monde qui fait Saint-Denis? Et donc voilà, ça a été ça le travail de collecte.
Et il a dit, ça a apporté en quelque sorte une caution un peu sciences humaines. Hein,
ils ont fait le travail. Ils ont pas seulement apporté la caution, ils ont fait le travail d'entretien, de rencontre des habitants pour faire cet inventaire humain avant de faire un inventaire botanique et potager.
Et notamment un inventaire culinaire qui a été un formidable matériau, une matière première devant laquelle vous vous êtes retrouvé. Ranois Stéphane. Et là, vous avez évidemment prêté main forte à ce projet en adaptant les recettes, en les réécrivant, en les testant à la maison, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. En fait, comme c'est des recettes qui ont été récoltées à l'oral, donc c'est pas forcément quelque chose qui a été prévu de façon très précise. Et donc, il fallait, à partir des indications qui avaient été données, pouvoir faire des grammages, détailler un peu les différents process, les différentes étapes. Et ça a été un peu mon travail, j'ai été contente d'avoir été contactée par Olivier pour faire ce travail-là. Et je pense notamment parce que je suis une chef du territoire et parce que justement ma cuisine elle-même, elle est très diverse, comme ce livre-là. Et aussi, je pense un peu, parce que les histoires d'identité, c'est des choses qui me passionnent beaucoup. Et ce qui est intéressant dans ce livre et qui fait sa particularité, c'est au-delà du format, c'est que parler d'alimentation finalement, parler de cuisine, c'est une façon d'aborder la question de l'identité qui est souvent une question très difficile à aborder parce qu'il y a beaucoup d'affectifs dedans. Et que en plus, se définir, c'est presque il y a quelque chose de très politique, de très revendicateur dans la façon dont on se définit. Et on oublie certaines composantes de son identité. Et que là, tout se révèle. En fait, à travers ce qu'on mange, on arrive à dire qui on est d'une manière sans affect, quoi, sans traumatisme de la mémoire collective, sans traumatisme de l'histoire, on peut laisser aussi émerger des hybridations. C'est-à-dire que les rencontres de la cuisine, on se réapproprie quelque chose qu'on rencontre et on y met une épice de chez nous, par exemple, ou quelque chose de... Et c'est ça qui est intéressant et qui est révélateur aussi finalement, de l'identité de tout le territoire.
L'hybridation culinaire, qui est une belle métaphore aussi des hybridations qu'on peut trouver, justement, au sein d'un potager. Et c'est ça, tout le parallèle entre zones sensibles et ce projet. 75 recettes collectées auprès des habitants de Saint-Denis et des habitantes. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes présentes dans ce livre. Il s'appelle Coucou, Rania, Nadia, Rudy, Sylvie, Soledad, Victor. Ils sont originaires de Guinée, de Jordanie, d'Algérie, de Bretagne, du Limousin. Il y a toute une série de recettes que vous avez vous-même collectées. Dans un instant, quelles recettes vous allez nous faire vivre? Je crois que ça parle aussi à votre propre identité, vos propres racines, cher Ranois.
Alors là, je vais vous parler plus en détail des feuilles de vigne farcies.
Voilà.
Rania, qui est la femme qui a proposé cette recette, est d'origine palestinienne et elle est sa famille est en Jordanie. Et effectivement, ça m'interpelle beaucoup parce que c'est mon cas aussi. Ma famille maternelle est en Jordanie et on y allait chaque été. Voilà.
Et ben on va en parler justement dans un instant. On va faire une petite pause, mais on va évoquer justement l'aventure de Rania, sa recette de feuilles de vigne farcies que vous avez tout spécialement préparée pour nous derrière la console aujourd'hui pour tambouiller notre émission. Stéphane Ronxin, notre réalisateur, il paraît qu'il habite Saint-Denis d'ailleurs. Thomas Langlin et Nadia Chougui. On se retrouve pour croquer Saint-Denis juste après Manu Chao, Amadou et Mariam. Sénégal fast food, ça doit vous dire quelque chose. C'est un choix de Djoubaka. Bon voyage dans les marmites de France Inter.
Je me marie, j'ai confiance. Amour solo, KO, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème, j'aime. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, donc. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, donc. Moi ici, toi là-bas, le visa au consulat numéro 39. Y attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Au Paris, cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris.
Quand j'étais petite, pendant l'été, j'allais voir ma famille en Jordanie. Il faut savoir que là-bas, il y a une part très importante de population palestinienne. C'est en Jordanie que j'ai fait la connaissance de toutes ces recettes. Ma mère cuisine très peu. J'ai donc appris avec les femmes de ma vie, comme je les appelle. Ma grand-mère, mes tantes, mes cousines, enfin toutes les femmes que j'ai pu rencontrer pendant mes voyages en Jordanie. Ça a vraiment bercé mon enfance et mon adolescence. J'ai grandi avec ça. Quand je revenais en France, je fantasmais sur tous ces plats parce qu'il y a des aliments qu'on ne trouve pas ici. On n'avait pas ici de mini aubergines, de mini courgettes. Il n'y avait pas de feuilles de vigne non plus. Quand on revenait de vacances, on rapportait toujours l'équivalent de grosses marmites pleines d'ingrédients dans nos valises. C'est le témoignage émouvant de Rania, habitante de Saint-Denis, que l'on trouve donc dans Récits, Recettes, La Table et le Territoire, le livre que vous avez écrit avec tout ce collectif et Olivier Darnay. Et c'est aussi évidemment un témoignage qui vous a touché puisque, encore une fois, ce témoignage reflète votre propre identité ou vos propres origines, Rania Stéphan.
Oui, tout à fait.
Et notamment la feuille de vigne.
Tout à fait, la feuille de vigne. Alors moi, c'est différent. J'ai très peu cuisiné là-bas, en Jordanie, finalement. J'ai surtout cuisiné ici avec ma mère. Mm-hmm. Mais voilà, ces histoires de... Effectivement, nous, on revenait avec des valises pleines de certains ingrédients. Alors aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les trouver, ce qui facilite beaucoup les choses. Mais la Jordanie, c'est là où était la famille maternelle, ma famille maternelle.
Petit point sémantique, comment appelle-t-on cette feuille de vigne en arabe? Il y a plusieurs appellations visiblement. Est-ce que c'est Dawali? Est-ce que c'est Yalenji?
Alors, certains vont appeler la recette végétarienne Yalenji. Donc, c'est le cas de Rania, en fait. Nous, dans ma famille, on appelle le Dawali, que ce soit végétarien ou avec de la viande.
Donc, Dawali, ça désigne à la fois la feuille de vigne, vraiment cette feuille que l'on utilise et qui sert d'enveloppe, en quelque sorte, à ses rouleaux. Mais c'est également la recette complète avec sa farce à base de riz.
Voilà, tout à fait. Alors, en fait, même Dawali, c'est vigne, c'est même pas feuille.
Ah, d'accord.
Voilà. Et donc, on utilise le mot voilà, Dawali, qui veut dire feuille de vigne.
Ça parle aussi à Zazie Tavitian, la feuille de vigne.
Bah oui, et elles sont excellentes parce que c'est aussi cette tendresse de la feuille de vigne qu'on retrouve qu'on retrouve que avec les feuilles de vigne fraîches. Et ben moi, c'est mes origines arméniennes, donc c'est mon grand-père qui lui-même se rappelait des feuilles de vigne de ses grands-mères. Pour le coup, en Arménie, un pays où il avait jamais été parce que c'était un peu fantasmé. Et pourtant, la gastronomie, ça restait ce lien avec ce pays qu'il n'avait pas connu. Donc c'était un pays en soi presque.
La feuille de vigne roulée, c'est vraiment les pays du Levant, mais c'est également aussi les Balkans. C'est une grande partie de la Méditerranée quand même. Hein.
Oui, oui, la Grèce, enfin il y a la Turquie, il y a pas mal de gens qui... Alors après, ça va être la farce qui va être un peu différente. D'ailleurs, là, moi, je me suis permis d'adapter un petit peu la recette de ragna.
Alors racontez-nous justement, elles sont absolument délicieuses, bien fondantes, comme les décrivait Zazie. Comment vous vous y prenez ça? Ça a l'air un peu impressionnant comme ça, parce que j'imagine qu'il y a évidemment un petit geste de roulage derrière.
Oui, effectivement. C'est je me souviens, les premières casseroles que je faisais toute seule, j'y mettais du temps. Bon, maintenant, je suis devenue un peu plus rapide. Mais oui, un petit geste, c'est un peu comme le geste du nem ou du rouleau de printemps, c'est le même geste. Et puis voilà, ça prend un peu de temps effectivement. Là, c'est vraiment la saison pour les récolter, les feuilles de vigne. C'est pour ça aussi que je voulais vous faire cette recette pour pousser les gens dans leur jardin, parce que c'est le moment de les récolter. Elles ont la bonne taille, elles sont tendres et ça permet. C'est vrai que c'est meilleur avec la feuille de vigne fraîche.
Oui.
On peut les congeler pour pouvoir les conserver tout le long de l'année. C'est ce qu'on fait nous. Bah d'ailleurs, mon père avait planté justement des vignes dans son jardin pour qu'on en ait. Et c'est celle que vous êtes en train de manger d'ailleurs.
Parce que hors saison, on utilise des feuilles de vigne qui sont conservées en saumure.
Alors,
et qu'on trouve dans les épiceries orientales.
Oui, on les trouve dans les épiceries orientales. Vraiment dans certaines épiceries plus spécifiquement libanaises, on peut en trouver des congelés. C'est ce que je conseillerais effectivement par rapport à la saumure. La saumure, ça donne un goût qui est un petit peu différent, mais c'est ce qu'on a l'habitude de manger dans les restaurants en fait. Donc c'est peut-être plus familier que le goût de la feuille de vigne fraîche. Mais c'est vrai que bon voilà, moi je suis très attachée à la feuille de vigne fraîche. Donc.
Et la farce qui compose cette feuille de vigne roulée est à base de riz.
De riz, alors avec de la tomate. Pour la recette de l'agne, par exemple, elle met de la tomate en plus et des herbes, donc du persil. La recette de ma maman que je vous ai fait là, elle rajoute aussi de la lentille corail et de la menthe.
Comment on s'y prend globalement? On fait tout cuire ensemble dans une cocotte?
Oui. Oui, oui.
Racontez-nous.
Alors, vous préparez la farce, vous roulez vos petites feuilles de vigne.
Oui, mais la farce, on la prépare en faisant cuire du riz. On fait cuire le riz dans la cocotte avec
des
lentilles.
Il y a plusieurs techniques.
Ouais.
Voilà. Donc moi, par exemple, je l'ai mise à cru. Parce que justement, comme j'ai des feuilles fraîches, elles peuvent tenir un peu plus longtemps, elles sont un peu plus résistantes, donc elles peuvent résister au fait que le riz gonfle et elles ont besoin d'un peu plus de cuisson. Si on part avec des feuilles de vigne en saumure, elles sont un peu plus délicates et c'est bien de cuire la farce avant.
D'accord. Voilà. Et vous, en l'occurrence, vous avez fait cuire la farce
dans la vigne.
Dans la feuille de vigne.
Ouais, ce qui est intéressant parce que du coup, effectivement, le riz va s'imprégner du goût de la feuille de vigne. Et j'ai utilisé aussi du verjus. Parce qu'effectivement, quand on vient trier les grappes de raisins, voilà, c'est bientôt d'ailleurs, enfin, c'est plutôt juillet. Mais on vient trier, on garde ces grappes qui sont pas encore mûres, donc elles sont acides. On les presse et je congèle le verjus et je vais l'utiliser à la place du citron, en fait, dans ce genre de cuisson.
Le verjus, on parle d'un jus de raisin vert.
Ouais.
Donc c'est vraiment frais et acide.
Oui.
Et ça vient apporter effectivement cette fraîcheur.
Oui.
Vous faites cuire à couvert dans de l'eau, j'imagine.
Dans de l'eau. Il faut mettre le niveau. Alors d'abord mettre soit le jus de citron, soit le verjus, et puis après compléter de l'eau jusqu'à couvert, quoi.
Donc une fois que vous avez roulé vos feuilles de vigne, vous les disposez bien au fond de la cocotte.
Ça fasse un gâteau quand c'est bien démoulé.
C'est ça. Mais là, c'était assez bien démoulé. Hein. Et puis, il faut bien reconnaître quand même que le résultat est
magnifique.
Très très bien roulé. Qu'est-ce que vous en pensez, Manon?
Moi, je trouve que c'est...
Vous qui avez le palais affûté.
Je trouve ça merveilleux. Et pour tout vous dire, je ne savais même pas qu'on pouvait cuire la farce dans les feuilles de vigne. Je pensais que le riz était toujours cuit avant. Et je trouve ça formidable. C'est incroyable. C'est très parfumé. Moi, je trouve que la feuille de vigne, ça a toujours un goût de thé. Et il y a vraiment ce goût qui vient imbiber le riz et ce côté moelleux et en même temps assez gras. Vous mettez un peu d'huile d'olive.
Un peu d'huile d'olive, mais assez peu.
Ouais.
Assez peu. C'est juste pour le fond de la casserole. Et en fait, je mets aussi dans le fond des tomates, des rondelles de tomates et des oignons pour pas que les feuilles de vigne accrochent et ça donne aussi de l'acidité du goût.
Pour nos auditeurs aventureux qui voudraient se prêter à un atelier roulage et à faire ces feuilles de vigne, attention, pas n'importe quelle feuille de vigne évidemment, on choisit des vignes qui ne sont pas traitées.
Oui.
Il s'agit d'avoir des feuilles saines en quelque sorte. Hein.
Oui, oui.
Et donc on peut aller et ça peut être aussi de la vigne vierge ou c'est de la vigne
Non, c'est de la vigne, vierge, elle n'est pas comestible.
C'est vraiment de la vigne à raisin.
Voilà, exactement.
Dans un instant, on va parler de votre aventure formidable, des délices de l'Ogresse. Oui, car vous êtes à la Courneuve, donc vraiment voisine en fait de Saint-Denis, et preuve que la Seine-Saint-Denis est vraiment un terreau très fertile pour les projets alimentaires. Vous allez nous faire goûter quelques-uns de vos produits issus de votre conserverie artisanale que vous avez fondée il y a quelques années.
Il y a 4 ans maintenant.
À 4 ans quand même.
Ouais, 4 ans.
Le temps passe si vite, mais on va juste avant enfiler nos bottes pour aller faire un tour à Zone Sensible, justement. Retour dans le terroir, le territoire d'Olivier Darnay, en compagnie de notre chroniqueuse, reportrice Zazie Tavitian.
On va déguster. Sur France Inter.
Zazie, pour cette chronique, vous êtes allée directement sur place, donc à Zone Sensible, dans le 9-3, qui est en fait à portée de métro parisien.
Saint-Denis,
université. Oui, alors comme vous pouvez l'entendre, j'ai pris la ligne 13 direction Saint-Denis Université pour rejoindre Coco, la soixantaine, bénévole depuis le tout début avec le Parti Poétique. Ce matin-là, il y avait aussi Tom qui était en stage, deux bénévoles et Franck dont on a parlé, le régisseur des lieux. Nous sommes retrouvés pour une cueillette matinale.
Vous êtes Coco ?
Oui.
C'est beau hein, comme endroit, je t'ai jamais vu.
Ah, c'est un endroit magnifique, poétique, un endroit que j'aime beaucoup.
Alors, est-ce que notre mission première, c'est d'aller cueillir les orties?
Oui, alors normalement, c'est le petit buisson là-bas. Il y en a pas mal là. Et alors, avoir surtout une bonne paire de gants protecteurs. Et là, on va en cueillir 100-150 grammes. Mais ils sont bons, les orties d'ici.
Et cette recette qu'on va faire aujourd'hui, le pesto d'ortie, elle vous vient d'où?
Ma grand-mère faisait de la soupe avec l'ortie. Je suis une fille du Nord, mais j'ai beaucoup vécu dans les Cévennes, donc la campagne, enfin voilà. Donc, on vient d'une famille d'ouvriers, mais on a toujours très bien mangé. C'était pas une histoire d'argent, on allait glaner dans les champs. Et avec mon grand-père, on faisait tout, on tuait le cochon, on faisait la saucisse. En fait, moi, j'ai eu vraiment une éducation à l'ancienne et en fait, je me rends compte qu'on m'a donné de l'or en barre. Donc le pesto, je ne l'avais pas vu, mais vu que je fais du pesto avec les femmes de radis, avec, enfin voilà, dès que j'ai des légumes bien cultivés, sans pesticides, je me lâche et je fais des expériences. Pour environ 150 grammes d'ortie, vous allez avoir besoin de 150 grammes de parmesan, de 150 ml d'huile d'olive, de 150 grammes d'amandes, ou alors vous mettez moitié amandes et moitié pain rassis.
On commence par enlever peut-être les tiges des orties, c'est ça?
Voilà, on effeuille.
On les rince.
Oui, on va faire deux bains.
Donc c'est-à-dire un bain avec de l'eau froide.
Voilà, dans laquelle on laisse 2-3 minutes. Et puis ensuite, le deuxième bain, il est à l'eau tiède, mais pas tiède chaude, plus tiède froid. Il y a un peu de vinaigre pour enlever le piquant des orties et finir de nettoyer. On passe ensuite après à l'essoreuse à salade. On met dans le mixeur. C'est une préparation qui prend un quart d'heure, 20 minutes.
Moi, c'est Franck Pontier. Je suis régisseur pour le Parti Poétique, donc maraîcher, apiculteur, formateur, animateur, voilà, un petit peu tout. Vu que Coco était en train de travailler les orties, ça m'a vraiment rappelé le fait que j'avais oublié de préparer mes purins, hein, qui est la trousse à pharmacie du champ. Je vais travailler avec le purin d'ortie, je vais travailler que ce soit un insecticide, un désherbant, un fongicide. Enfin voilà, c'est vraiment la plante excellente.
Ortie de printemps?
Tout au long de l'année, ça va être l'ortie qui va arriver. Mais là, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est les feuilles les plus tendres et les plus fraîches. Et là où c'est que ça va être le plus savoureux, l'ortie n'a pas encore fleuri. Dès l'instant où il commence à fleurir, c'est difficile à cuisiner. Même pour moi, les purins, il est moins intéressant. Donc je passe mon temps en fait à le couper pour l'empêcher de fleurir jusqu'au moment. Que j'en aurai suffisamment, je vais le laisser fleurir, il va se reproduire et c'est reparti et le cycle continue. L'ortie, moi je dis, c'est vraiment, c'est un peu comme la blette, hein, c'est des mal-aimés on va dire, mais au niveau nutritif, mais c'est splendide. Après effectivement, il faut le sublimer quoi.
Alors Coco, là on a fini le pesto.
On a envie d'essayer.
Et vous le mangez avec quoi d'ailleurs le pesto?
Alors, avec du pain, avec des pâtes, avec des pommes de terre vapeur. Avec des crustacés, avec des coques, avec des couteaux, avec un poisson, ou à l'apéro.
Et ça se conserve le pesto en fait?
Ça se conserve, il faut juste qu'il soit recouvert d'huile d'olive. Et on met, bien sûr, au frigo.
Est-ce que vous voulez goûter notre pesto?
Ah bah oui, oui, un pesto, bah oui, j'ai pas pensé ça, le pesto, bien sûr.
Pesto
bien joué,
d'ortie.
Bien joué, bien joué. Mmh. Très très bon.
Bon, super.
Ça va, c'est validé. Ah, alors vous allez pouvoir le valider vous aussi, parce
il est carrément validé. Hein.
Je vous en ai cuisiné avec les orties que j'ai rapportées de la ferme.
Régal.
Bon, j'avais pas de mixeur, mais juste un mortier, j'ai fait les quantités un peu au hasard, mais...
C'est bien avec les petits morceaux de parmesan, et puis il y a cette légère amertume, ce côté chlorophylle très végétal de la... De l'ortie, non, vraiment, c'est superbe, Manon.
Moi, j'adore l'ortie, je l'utilise hyper souvent en cuisine. Pour la petite anecdote, Zazie, c'est la première fois que j'ai voulu cuisiner de l'ortie à l'école à Ferrandi. Mon prof m'a interdit parce qu'il me dit que ça piquait.
Ah ouais, il faut quand même un peu changer les règles du jeu dans les formations culinaires.
Et oui, et c'est comme le disait Franck, c'est aussi très riche nutritionnellement, en vitamine C, en fibres, en protéines. Ouais. Et c'est aussi intéressant du coup on suit un régime végétarien.
Parce que voilà. C'est une source de protéines quasiment miraculeuse, hein, l'ortie, ce qui n'est.
Et la couleur aussi, la chlorophylle est super intéressante quand on veut travailler de la couleur verte naturelle.
Et quand on veut soutenir son immunité par de l'alimentation, l'ortie est un vrai atout.
Vous travaillez donc l'ortie.
Alors moi, pour moi, je la mets pas tellement pour l'ogresse, mais pour moi, oui.
On entendait Coco, cette cuisine, une petite chose à rajouter.
Oui, pardon, deux petites choses à rajouter. Alors, je veux dire que la recette déjà est sur le site d'Inter, que Coco, elle a passé aussi son brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, grâce aussi à Zone Sensible, donc pour devenir maraîchère. Et là, en ce moment, elle cherche 2 hectares dans les Cévennes, donc je lance un petit appel. Et je voulais vous recommander aussi rapidement une revue trimestrielle que j'ai découvert à l'épicerie librairie Provision à Marseille. Ça s'appelle Ingrédients. Ça a été inventé par l'association Bouillon de Noailles. Et on y lit des histoires de recettes et de souvenirs culinaires d'habitants habitantes. Et ça coûte 5 € et c'est super.
Ah, voilà. Je suis d'accord. Moi, je les ai presque tous. Et c'est un peu le pendant marseillais de votre initiative récit, recette. En partant du principe qu'une recette, c'est beaucoup plus évidemment... qu'un déroulé très normé, avec des grammages, des proportions, des gestes techniques. C'est aussi, bien entendu, une façon de se raconter, de raconter sa vie, de renouer avec ses racines.
C'est-à-dire que c'est pour ça que, d'ailleurs, on n'a pas cherché à faire un livre de recettes. Mais c'en est un de fait, mais c'est autant un livre de récits que de recettes. En posant des questions sur les recettes, on avait en fait des récits. On avait des histoires. Et donc, on a collecté à la fois des légumes, des paroles, des savoir-faire qui ne sont pas figés, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de mettre au panthéon quelque chose qui serait dans ses dosages, dans ses gestes figés. Au contraire, là, c'est les transmissions. Et en l'occurrence, en plus, les migrations de ces recettes qui les réinventent. Donc, ce qui est très joli, c'est que ce livre Récits Recettes, peut-être que dans 10 ans, on l'écrira autrement, parce qu'elles auront à nouveau grandi, finalement.
On a déjà pas mal de messages de nos auditeurs et auditrices qui veulent se le procurer. Ah, comment on s'y prend? C'est pas si évident que ça, parce que c'est un livre qui a été en quelque sorte, c'est un livre collectif, enfin, collectivement auto-édité.
C'est ça, on s'est débrouillé à faire un livre sans éditeur. On s'est dit, tiens, peut-être que finalement, c'est pas si compliqué. Bon, on a presque réussi, puisque finalement, il existe. Et donc, si éventuellement on devait être en rupture de stock, on a promis qu'on en réimprimerait.
L'exemple de Coco, cette habitante, cette dionysienne qui vient prêter main forte à votre projet de zone sensible, cet hectare de maraîchage en plein cœur d'un milieu urbain, c'est l'exemple aussi que vous n'êtes pas, un petit poumon vert ou une tour d'ivoire légèrement isolée, vous êtes vraiment en interaction quotidienne avec les habitants de Saint-Denis.
C'est la grande surprise et la magie de zone sensible qu'on avait un peu sous-estimé sur la capacité des gens de s'approprier cette histoire-là. Quand on prend un hectare, qui est pour moi vraiment une page blanche, ce qu'il s'agissait de faire finalement, c'était de regarder sur 25 ans comment on pouvait avoir un lieu de passage à l'acte, d'appropriation très forte. Et en gros, on voit aussi la limite de l'agriculture urbaine. Les fermes urbaines ne nourriront jamais les habitants des métropoles. Donc là-dessus, il faut régler la question. Ça veut dire que l'intérêt est ailleurs. Et en l'occurrence, l'intérêt, là, il est surtout sur la question politique des apprentissages. Ce qui est très beau, c'est que Zone Sensible devient un lieu de reconversion professionnelle, devient un lieu d'apprentissage pour les petits, les grands qui n'ont pas l'habitude de mettre les mains dans la terre, pour les gens qui ont fait un burn-out et qui pensaient que c'était très bien de gagner 6 000 € par mois, mais qui se sont rendu compte finalement que tout n'était pas dans la fiche de paye et que d'une certaine façon, la nécessité en fait, première, primitive et essentielle d'être relié au vivant est ce qui peut faire en fait un objectif de vie à ça. Et puis après, il y a tout ce qu'on a développé sur les logiques issues d'une crise qui est celle de la pandémie, qui nous a fait ensuite inventer un autre lien aux habitants avec ce projet Solidarité Pandémique qu'on a monté.
C'est-à-dire le principe de distribuer des paniers de légumes aux habitants dans le besoin.
C'est-à-dire que dans l'équilibre du projet, à un moment, on produit des légumes pour la beauté du geste, mais on en vend une partie à une quinzaine de restaurants, donc on fait une tournée une fois par semaine. Mais pendant la pandémie, on voyait bien qu'il y avait une urgence, finalement, à faire en sorte que les fins de mois difficiles des habitants, et qui étaient devenus des débuts de mois difficiles, avec des contrats fragiles, précaires, intérimaires, avaient disparu. Le repas équilibré de la cantine pour les enfants avait lui aussi disparu. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, il faut absolument qu'on indique comment la ferme devient, pour nous, l'espace politique des temps futurs, et comment, finalement, zone sensible peut en être un démonstrateur. Il ne s'agit pas de faire les malins, il s'agit de dire que cette chose-là, d'autres peuvent le faire. Et donc solidarité pandémique, ça a été comment en fait on arrive à financer la gratuité, comment on arrive à offrir en fait, ben là en l'occurrence c'est une quinzaine d'associations du territoire, Stein, Saint-Denis, Pierrefitte, et voir comment on arrivait à monter une chaîne alimentaire d'aide et voilà, de gentillesse finalement légumière sur le territoire immédiat.
Et on va voir dans un instant que zone sensible va être aussi un nouveau terrain de jeu, celui d'un championnat du monde, des cuisines du monde. Vous nous en parlez dans un instant. Et puis on va déguster plein de choses, dont les nouveautés des délices de l'Ogresse, la conserverie artisanale que vous avez fondée à La Courneuve il y a 4 ans, Ranois Stéphane.
D'abrus, maître de chien, desquels j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, de rongeurs de frein, de tout sexe, seigneur de château renversé, cher à Dédale. Que dalle, tout, tout, que dalle, tout, 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 que dalle, tout, que dalle, tout. Je viens d'une longue lignée de zéro, de un, sentimentaux. Serpent, figure locale, desquelles j'ai hérité de tout, que dalle.
Belin, que dalle tout sur France Inter. On plonge aujourd'hui dans le terroir et les marmites de Saint-Denis, cette ville-monde aux portes de Paris dont on explore en ce dimanche, dont on va déguster la richesse culinaire et agricole. Il y a Saint-Denis et juste à côté, il y a La Courneuve où vous avez fondé, Ranois Stéphane, il y a donc 4 ans, les délices de l'Ogresse. Je crois qu'on était les premiers dans l'émission à en parler de cette formidable initiative qui est une conserverie, c'est bien ça?
Oui, c'est une conserverie. C'est quelque chose dans lequel je me suis lancée comme ça, après un autre passé, on va dire, une autre carrière.
On peut en dire un mot quand même de votre passé, car vous avez été pendant 15 ans documentariste dans les zones de guerre. Vous avez travaillé en Afghanistan, en Syrie, c'est bien ça. Oui. Et vous êtes reconverti finalement dans votre passion de toujours, la cuisine.
Oui, oui, c'est ça. Pour deux raisons. Déjà parce que la cuisine, c'est joyeux. c'est beaucoup de plaisir. Après avoir fait 15 ans de zone de guerre, on a besoin de
retourner cuisiner. Même si vous me disiez que vous aviez été confronté à la joie et à l'espoir dans ces zones de guerre et à la cuisine aussi.
Bah, en fait, c'est vrai que dans ces zones-là, il faut trouver de quoi se raccrocher à la vie. Et la seule chose qui existe finalement, c'est manger. Mmh. C'est ce plaisir-là. C'est ce plaisir qui ne se perd jamais. mets. Alors ok, il y a peut-être un peu moins de variété d'ingrédients, mais on trouve toujours de quoi cuisiner et se faire plaisir. Et des fois, ouais, parfois ça peut. En Syrie, par exemple, j'étais 3 mois en zone rebelle du côté d'Alep, donc pour vous dire que c'était pas très 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 rigolo. Bah, ça n'empêche que tout d'un coup, on pouvait se faire une fête juste parce qu'on faisait du pain dans le four traditionnel que tout le monde a dans son jardin.
C'était une façon de rester en vie.
C'est dans ces zones-là qu'il y a le plus d'humour et qu'il y a le plus de capacité à savourer l'instant présent quand il est joyeux complètement, parce que sinon on ne survit pas. Et c'est vrai que moi, par exemple, la cuisine, à mes retours, ça a été mon moyen de rester debout aussi, parce que c'est difficile ces zones, elles sont passionnantes, mais on y laisse aussi quelque chose. Enfin, c'est assez difficile à vivre, et c'est surtout les retours qui sont difficiles. Ben voilà, pendant une semaine, personne ne me voyait, je faisais que à manger. Hein. C'était même des choses que je ne mange pas, par exemple la confiture, mais j'adorais faire des confitures, parce que tout d'un coup, il y a le plaisir du fruit, de l'odeur, voilà.
Et cette obsession culinaire a donc fini par prendre le dessus.
Ben oui, et puis ensuite, pour une autre raison, c'est parce qu'aujourd'hui, je pense que l'alimentation, c'est un vecteur de changement de la société qui est formidable. Voilà, on a pris conscience des pièges dans lesquels on était rentrés. On a pris conscience de la mauvaise manière dont on traite les producteurs et qui rendent notre société exploitatrice et voilà, et on fonce dans le mur. Et on a pris conscience de tout ça et maintenant c'est le changement qui doit s'amorcer. Et par l'alimentation, on peut le faire.
Les délices de l'Ogresse. Alors c'est une conserverie. Vous avez toute une gamme de produits. Ça va des tartinades aux sauces, en passant par les condiments, avec des influences qui viennent à la fois de votre passé, des souvenirs culinaires auxquels vous avez été confronté pendant votre carrière de documentariste, mais également vos souvenirs d'enfance. Et ça donne de formidables produits. On en a déjà évoqué certains, dont une fabuleuse sauce barbecue avec ses notes fumées et épicées qu'on adore. Et là, je vais demander à Manon de tremper ses lèvres dans ce petit liquide vinaigré, mais je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce que vous décelez, Manon ?
Je dirais du sureau.
Bravo, c'est notre champêtre floral du sureau, mais c'est vrai que le sureau explose dans toutes ces notes de campagne. C'est vraiment un remarquable produit. Mais d'où vient ce sureau?
Eh ben, il vient du parc de la Courneuve.
Et ben
je
voilà.
Je vous en ai même ramené pour que vous puissiez plonger votre nez dedans.
Non, si. On disait que la Seine-Saint-Denis était aussi un formidable terroir, eh ben, vous y cueillez le sureau en fleurs.
Oui,
parce qu'alors, le sureau, il y a deux époques. Il y a la fleur blanche et ensuite il y a la baignoire.
Oui.
Là, en l'occurrence, c'est la fleur blanche.
C'est la fleur blanche.
Pleine saison. Là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment maintenant.
C'est ça. Ah oui, carrément, dans une petite glacière.
Oui, pour que l'odeur reste bien.
Formidable. Comment pour ceux qui seraient intéressés, qui auraient du sureau comme ça au bord des chemins à la campagne et qui voudraient faire du vinaigre, comment vous faites ce vinaigre de sureau?
Alors, il faut récolter les fleurs.
Voilà,
alors,
le parfum
attention,
extraordinaire.
Il faut se méfier un peu parce qu'il y a une sorte de sureau qui est toxique, qui
et
est
oui,
le sureau
attention.
Yèble. Donc il faut être sûr de bien reconnaître.
On peut les confondre.
Alors après, il suffit de regarder le tronc. Soit on est dans le sureau yèble est un arbuste, donc là vraiment on a beaucoup de petits, ouais, de qui partent du sol. Alors que le sureau qu'on peut manger, c'est un arbre, donc il y a vraiment un tronc et des branches qui se ramifient.
Voilà, on se tourne vers l'arbre. On est bien d'accord. D'accord. Sinon,
ouais,
il y a de petits risques sanitaires.
Voilà. Et donc, on cueille les fleurs et puis après, on les fait tremper dans du vinaigre.
On les fait macérer.
Voilà.
Mais du vinaigre de cidre, du vinaigre blanc ?
Du vinaigre de cidre.
D'accord.
Moi, j'utilise du vinaigre cidre. On peut utiliser du vinaigre blanc si on a envie.
Et une légère sucrosité, non, vraiment, c'est le vinaigre parfait. Pour ceux qui veulent se le procurer, c'est signé Les Délices de l'Ogresse. Où est-ce qu'on peut le trouver? On a mis évidemment tous les renseignements sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Alors, ce sera à partir de juin.
Ah.
Voilà, c'est une avant-première que je vous ai faite. Ce sera sur le site et tous les magasins qui nous distribuent.
Très bien, de la fleur, de sureau, on va passer au miel, oui, car il y a aussi du miel à zone sensible quand on vous disait que c'était un petit écosystème aux portes de Paris d'une fécondité fabuleuse. Eh bien, elle a fait son miel à zone sensible. C'est la chronique de notre chef chroniqueuse Manon Fleury.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Cher Manon, c'est à vous.
Je vous ai apporté aujourd'hui un rayon de miel béton, confié par Olivier Darnay, car le miel béton fête, vous me direz si je me trompe Olivier, c'est 25 ans.
Oui, ça fait peur.
Et j'ai cru comprendre que tout a commencé quand vous avez déposé une annonce
apiculteur cherche abeille. Est-ce que vous voulez nous raconter comment ça s'est passé?
Je crois qu'elle est bien renseignée, c'est incroyable, j'en avais même oublié ça. C'est difficile de faire de l'apiculture sans abeilles, et il fallait effectivement que je travaille. Ça date de 97, cette histoire-là. Mon fils venait de naître, et j'avais envie, comme plasticien, pas forcément comme apiculteur, de regarder à mon corps défendant ce que c'était que de vivre avec des abeilles. Et tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, on ne sait pas de quoi on parle. Donc j'avais 3 ans d'apiculture théorique et livresque, et puis il fallait à un moment que je passe à l'acte. Donc j'ai envoyé effectivement une bouteille à la mer pour avoir des abeilles sauvages. Et c'est comme ça que j'ai commencé.
Et il me semble que la production a été très rapidement, qu'au bout de très peu de temps, il y avait déjà 40 kilos de miel produit et que vous distribuez 300 pots dans votre quartier, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais appelé la pollinisation de la ville. En fait, moi, je mange 2 ou 3 kilos de miel par an. Et quand on fait la première année par accident 40 kilos de miel, ben on a 37 kilos de problèmes sur les bras. Voilà.
Et pour l'histoire du miel béton, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ça s'appelle miel béton?
C'est simplement un gamin de la cité Joliot-Curie, juste à côté de là où j'habite, à côté de la porte de Paris, à Saint-Denis, qui un jour, comme j'avais toujours des pots de miel du coup dans les poches, j'en ai offert un jour à cet enfant et il a goûté, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit c'est béton. Voilà, c'est comme ça que c'est devenu miel béton.
Formidable nom d'ailleurs, oui. Qui a fait floresse, hein, c'est le cas de le dire, ouais. Notamment auprès des chefs parisiens et dans la France entière.
Et donc pour vous décrire ce rayon, ce sont des sortes de petites alvéoles de forme hexagonale qui sont collées entre elles et parfois même et bien souvent recouvertes de miel. Le rayon est composé de cire, de propolis, de pollen et contrairement à ce qu'on peut penser, pour nous, les chefs, c'est super rare d'avoir ce genre de rayon dans les cuisines. C'est en général le privilège des apiculteurs qui récoltent le miel pour le mettre directement en pot. Le rayon miel est pourtant l'essence du miel, finalement. C'est le miel qu'on devrait connaître, le miel dans lequel on devrait croquer.
Dans son état brut. Ouais.
Exactement. Il n'a en effet subi aucune opération destructrice, pas de choc mécanique, pas de choc thermique. Il contient, contrairement au miel en pot, de la propolis, dont les propriétés sont extraordinaires. Antiseptique, antivirale, anti-inflammatoire, cicatrisante. Jadis, le miel en rayon était beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui et extraire le miel des rayons n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Donc, on utilisait ce miel en rayon. Puis, on est passé au pot. Et c'est le chef Alexandre Gauthier, je crois, que vous connaissez bien, Olivier, qui a été un des premiers, ou peut-être le premier, à remettre au goût du jour le fait de déguster ce rayon de miel en le servant dans son restaurant à ses clients pour établir une transition entre les plats salés et sucrés comme une sorte de pré-dessert. Il prend une cuillère, je crois qu'il le fait toujours aujourd'hui, mais avec son propre miel, et il le sert tout simplement avec quelques gouttes de jus de citron. Et c'est assez formidable pour l'avoir déjà goûté. Sans doute grâce à l'influence du chef de la Grenouillère, il semble que le rayon soit revenu au goût du jour. Et on peut facilement aujourd'hui en trouver sur Internet dans les boutiques spécialisées en vente de miel. J'aurais pu évidemment décider de vous servir simplement une cuillère de miel, parce que c'est quand même formidable et que ça peut se manger tout à fait comme ça. Et que, comme vous me l'aviez confié lors de la préparation de cette émission, Olivier, c'est le dessert primitif par excellence. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ai eu envie de trouver des recettes où on utilisait tout du rayon pour ambition déjà d'une, de pas dénaturer le miel, parce que je trouve que cette texture, elle est formidable, qu'on a vraiment ce côté de cire incroyable, et puis aussi dans une volonté de ne rien jeter du rayon, parce que ce serait vraiment dommage de jeter quoi que ce soit dans cette partie un peu dure qu'on retrouve dans la cire. Et donc j'ai fait deux petites recettes. Une première recette à base de rhubarbe.
Oh là là, c'est chouette.
Rhubarbe crue, qui a été simplement coupée finement, vous coupez des copeaux de rhubarbe crue à la mandoline sans enlever la peau, sans l'éplucher, et puis ensuite vous allez la tailler en julienne très fine au couteau. Bon, après j'espère que vous aurez des couteaux qui coupent à la maison, et puis vous allez venir écraser dans une assiette une petite cuillère à café de ce rayon de miel et poser par-dessus cette rhubarbe dans lequel vous aurez juste mis un peu de quelques gouttes de jus de citron.
Donc j'adore
ça. C'est vraiment le dessert, je pense, un dessert très très simple mais qui peut se faire à la maison en quelques minutes.
Le côté l'acidité fruitée de la rhubarbe, avec le miel et puis ce qui apporte l'aigre douce et le jus de citron, c'est à la fois très chouette en texture et très équilibré dans les saveurs.
Il faut aller chercher vraiment le côté texture du miel qui est très intéressante. Et puis juste à côté, vous avez une petite tuile que j'ai faite simplement en mettant une cuillère de rayon de miel mélangée à un tout petit peu de farine de sarrasin. Vous aurez toutes les quantités sur le site de France Inter, je ne les rappelle pas. Et un peu de farine de sarrasin, un peu d'eau, vous faites vous obtenez une texture à peu près de pâte à tartiner que vous venez étaler sur une feuille de papier sulfurisé. Vous mettez au four à 170 degrés pendant 10 minutes et vous obtenez une tuile qui exhale les saveurs du rayon de miel que vous trouvez. C'est vraiment ce côté floral, ce côté floral qu'on retrouve pas dans le miel qu'on a en pot à la maison, et je trouve qu'il est incroyable et vous perdez rien du rayon de miel. Et franchement, ça peut se manger aussi dans la recette que j'ai mise sur le site. Vous pouvez aussi la tremper, la retremper dans le miel de rayon et en faire un bonbon que vous gardez dans la bouche.
Ça peut être génial, ça. Comme une tuile assez croquante, croustillante, c'est vraiment délicieux avec ces notes, effectivement, cette saveur assez prononcée de miel, Zazie.
Ça fait bonbon au miel, moi ça m'a renvoyé à ces bonbons au miel qu'on mangeait enfant, et c'est hyper délicat, en plus hyper fin.
Et le goût de la cire est aussi présent dans le gâteau, ça c'est marrant.
Et qui dit miel dit effectivement cire, et qui dit cire dit une petite exposition à la basilique Saint-Denis.
Bravo, ouais,
la boucle est bouclée.
C'est beau, et ça s'appelle Lux Continua. C'est en gros, quand on produit 100 kilos de miel, on produit 1 kilo de cire, et depuis 25 ans, donc grâce à Manon qui m'a aidé à faire l'addition, j'ai fait finalement une sorte de cirothèque, une collection de cire comme ça dans des lingots, qui était donc cette mémoire des lumières de Saint-Denis, parce qu'avant on avait des ruches chez soi, non pas pour uniquement la valeur du miel, mais surtout pour la capacité que l'on avait à faire d'avoir de la cire et produire de la lumière. Et donc, une invitation du Centre des Monuments Nationaux à la Basilique de Saint-Denis me permet aujourd'hui de valoriser, du coup, dans deux machines sculptures qui sont aujourd'hui installées dans la crypte de la Basilique et jusqu'à la fin de l'année, la possibilité, du coup, de faire revivre des gestes et des machines qui n'existent plus depuis le XVIIe siècle, des métiers de maître cirier. Et donc, cette lumière stockée par les abeilles de Saint-Denis depuis 25 ans, aujourd'hui, elle se transforme en cierges qui sont, du coup, dans des œuvres, mais aussi dans des machines et dans des gestes nouveaux, enfin, nouveau en tout cas, qui n'existait plus, dans un projet qui s'appelle Lux Continua. Ouais.
Et j'ai à mes côtés un cierge que vous nous avez apporté, il fait à peu près 60 cm de hauteur, et il est parfumé, il sent vraiment la ruche.
Bah, il essaye de protéger la maison de la radio pour que ça reste un service public, mais...
ça le restera, on
est optimiste. Tant mieux. Et puis effectivement, c'est une émotion parce que c'est une odeur aujourd'hui inconnue. Tous les cierges que l'on fait aujourd'hui, qu'on appelle bougies, enfin, sont surtout faits avec du pétrole, enfin, ou avec des matériaux issus de l'industrie. Là, ce qui est beau, c'est d'avoir affaire à un parfum premier. Et puis, le travail que l'on fait aussi après avec d'autres parfumeurs, en l'occurrence, Mathilde Laurent chez Cartier, c'est aussi une autre collaboration depuis Zone Sensible avec d'autres matériaux bruts que l'on travaille. Ouais.
C'est la même odeur que les tuyaux au miel.
Oui, c'est exactement ça. Non, franchement, bravo. Vous voyez, la lumière fut. Comme quoi, on vous prouve qu'il est vraiment tout terrain, cet Olivier Darnay est vraiment incroyable. Allez, on passe à un autre profil d'habitant de Saint-Denis qui est également présent par son témoignage et ses recettes dans Récits, recettes, le livre encore une fois que vous avez collectivement construit. C'est Alain et son tiramisu au citron. Vous avez eu un vrai coup de cœur. Alors là, on n'est pas vraiment avec Rania et sa feuille de vigne qui parlait un peu à vos racines. On est dans l'exemple de la recette un peu étrangère, entre guillemets, à votre propre univers, qui peut justement faire le lien avec l'autre.
Oui, c'est vrai que c'était une découverte, cette recette de tiramisu au citron, parce que je n'avais jamais goûté, ni même essayé d'en faire. Et moi qui n'aime pas trop le tiramisu, justement, j'étais ravie d'en trouver un qui me plaisait bien.
Il y a quand même le citron qui vous ramène un peu à la Méditerranée et au pays du Levant.
Exactement. Puis bien sûr, là, j'ai saupoudré, moi, de pistache, parce que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre de la pistache. Je trouve que citron-pistache, c'est quelque chose qui marche bien. Même, c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans cette recette, c'est même la démarche d'Alain, finalement, qui a trouvé cette recette sur Internet parce qu'un jour, on lui a offert un pot de lemon curd et qu'il l'a laissé traîner, puis qu'il s'est dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec, et il a cherché, il a découvert lui-même cette recette, finalement. Ça, je trouvais ça chouette, cette histoire-là.
Autre exemple d'hybridation, en fait.
Oui.
Parce qu'il est d'origine bretonne, en effet, et il est arrivé par des chemins de traverse à ce fameux tiramisu au citron.
Oui, c'est ça. Donc, lui, il est d'origine bretonne, il est arrivé enfant dans la région parisienne. Il est marié à une Algérienne. D'ailleurs, sa femme, c'est assez rigolo, lui dit « Prépare-toi la semoule, parce que quand tu l'as fait, c'est meilleur. » Et c'est meilleur parce qu'il l'a fait au beurre, justement. Et donc là, on est vraiment sur l'hybridation, puisqu'elle l'a fait à l'huile d'olive.
Il est prodigieux. Avec tout son moelleux, on a affaire à un beau coussin bien confortable. Et en plus, il y a vraiment le bon équilibre entre le sucre, qu'il y en a quand même. Hein. Mais il y a également la fraîcheur fruitée et l'acidité du citron. On vous parlait du championnat du monde, des cuisines du monde, tout ça est finalement lié. C'est le prolongement, entre guillemets, de récits recettes. Racontez-nous cette aventure, cette nouvelle aventure, Olivier Darnay.
C'est-à-dire que, bon, je suis pas très fort en sport, mais on va accueillir les Jeux Olympiques bientôt, et en tout cas en Seine-Saint-Denis. Et puis, il y a un sujet aussi amusant, enfin, un peu inquiétant sur le... On sort d'une période de crispation électorale un peu identitaire, et tout à l'heure on en parlait, mais la table est certainement l'endroit de la meilleure négociation possible sur l'intérêt de la culture de l'autre. Enfin, voilà. Lorsqu'on met à manger quelque chose qui provient d'une autre intelligence en face de nous, cette convivialité, elle porte. Et là, on a fait du coup avec l'équipe du Parti Poétique une proposition au département de la Seine-Saint-Denis de lancer effectivement le premier championnat du monde des cuisines du monde. Ça ressemble à une blague, mais c'est très sérieux. Puis d'ailleurs, vous êtes parrain, c'est pour vous dire.
Et oui, on en est fier. On relayera toutes les informations et les actus de ce championnat.
Et l'idée, voilà, c'est de valoriser les savoir-faire culinaires des gens des quartiers. On est sur un territoire d'excellence, en fait. On est sur un territoire d'excellence où, en plus, dans les métiers de la restauration, on a aujourd'hui des enjeux importants sur le développement économique et l'accompagnement des métiers.
Le mode d'emploi en un mot, les dates.
Lancement le 14 mai, la semaine prochaine à Zone Sensible. Inscription jusqu'au 6 juillet. Habiter en Seine-Saint-Denis, y travailler, avoir des choses à raconter et être partageur de sa culture.
On en reparlera et vous viendrez nous reparler de votre projet à Arles. Un grand merci Olivier Darnay, merci Ranois Stéphane. À dimanche prochain si vous avez encore faim.